taf autant que jouent leur jeu, qui n'amusent que leurs bourgeoises rétrogrades au rang de sous-hommes, ceux qui abusent de leur pouvoir. Je repars en crampon dans le game, préparer le comeback. Je me place en tampon entre mes et blasphèmes comme d'hab. Je t'accorde que nos réputes vont mal, j'ai tout du suspect numéro 1. À force de causer de pute, on a fait le tour du sujet. Je vais pas juger vos fringues, ni voir mes couilles triplées d'épaisseur. Je sais qu'on redoute moins le futur que le passé pour ce qui est des erreurs. Quitter, rester seul, m'évaporer, c'est pas votre thérapie. Groupe qui aide les rêveurs entre les groupies et les haters. Suppiche que d'Alice, rien. Faut jamais oublier que t'es personne si tu veux pas finir dingue. Focus, je retransmets l'info du crime et des types que les flics importunent. Je préfère encore brûler, porter l'insigne indigne. Y'a pas de pire imposture. Des pantins, des anciens faillots qui se prennent pour des mafiosi dès qu'ils enfilent un costume. J'ai plus d'une corde à mon arc, j'tue mon truc, c'est pas les symboles. Écrivain nocturne, la désinvolture au cœur de mon arc. Le plan est simple, le sens est limpide, suivez bien les paroles. J'avance peu importe, ni vos principes, ni l'odeur de mon cash. J'en ai fini avec les excuses, rien ne m'arrête plus. J'veux grailler toute la planète à moi tout seul, puisqu'une main tendue c'est rare. Je les attends plus, c'est mort maintenant que j'ai la fin du scénar. Je me place au-dessus des lois, la justice c'est comme une fiesta. Chacun fait la sienne, je vois pas pourquoi je me ferais plus chier que ça. J'ai confiance à mon libre arbitre pour choisir entre le paradis et l'enfer. Une dernière clope et je tue ce texte, les jours, les secondes s'évaporent. Après le choc, t'es plus le même, cette nuit je vais tromper la mort. Si t'as péché à leur prix, rejette la faute sur qui tu veux. Si ça peut t'aider à dormir, branche la TV juste au cas où tu trouverais mes paroles tristes. Et si un jeune sur deux sait qu'il est baisé dès ses 14 piges, tu peux fantasmer sur des coupés sport, des joyaux grotesques. Au final, on ne voit que la vie, les coups qu'elle donne, les plaies qu'elle soigne, aux gros selles. Où tu peux rester clean et ouvert à l'approche de nouveaux signes. Au tèche des milliers de bouteilles à la flotte, retournée par le cours au chivo. Tu peux monter si tes valeurs sont les bonnes. N'aie pas peur, on t'escortera jusqu'au bal Cendrillon. Mais reste lucide quant à ceux qui changent de masque selon les modes, car ils savent se fondre et forment un cadre où l'argent triomphe. Tu peux dire que la zik me rend bizarre. Mais cela dit, c'est le seul avenir que j'envisage. J'ai cru la passion endormie comme dans un rêve, et pourtant c'est fou comme elle résonne encore si fort dans ma tête.
ouais, je suis à la page.
Principe actif, 102.4 FM.
Une équipe de Radio Biodive est de nouveau avec vous et principe actif. Et on va vous parler d'un ami qui nous est cher, qui est Léon Curial, qui nous a quitté il y a peu de temps. Et en son honneur, ce dimanche, il y a une fête de la biodiversité qui se passe à Garancières, la Baronnie. Alex, tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, oui, il y aura des conférences, par exemple l'énergie du pédalier, il y aura un G-marché, il y aura beaucoup d'associations. Nous, on fera des conférences sur comment acquérir la biodiversité dans son jardin, une conférence aussi sur les rapaces nocturnes. Il y aura une conférence d'Enercop, voilà, plein de copains.
Il y aura plein de stands aussi.
Il y aura un concours de fauchage.
Le concours de fauchage.
Qui tient à cœur à Léon.
C'est l'action phare que Léon avait promu, faire un jardin, laisser des zones en herbe et puis faucher son jardin avec la faux. D'ailleurs, Léon, c'était un personnage tout à fait intéressant, c'était un jardinier hors pair, et c'est un pionnier de l'agriculture bio dans l'Eure. Il était venu de sa région beaucoup plus à l'est, de l'Ain, mais quand il est arrivé dans le Pays d'Ouche, il s'est beaucoup intéressé à l'agriculture, et il a été embauché dans une entreprise qui débutait le bio en France. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite interview de Léon, que vous allez maintenant pouvoir écouter.
Quand je suis arrivé dans l'Eure en 71, dans le Pays d'Ouche, il y avait des réunions de motivation pour les agriculteurs pour qu'ils fassent le drainage Et dans la foulée, ils ont fait le remembrement. Parce que pour faire le drainage, on tient compte des courbes de pente, toujours est-il que dans la foulée, ils ont fait le remembrement. Et pendant le début des années 70, c'était un vrai carnage, quoi. Il y avait des énormes bulles. Par exemple, pour faire le remembrement, d'abord, les trains, ils les enterrent, mais après, il y a les collecteurs, c'est des énormes fossés qui font la profondeur d'un homme. Et donc, il y avait les réunions préparatoires, mais les idées me viennent comme ça, parce que j'en ai tellement. Mais... Par exemple, ils cherchaient où mettre l'eau de drainage. Et un jour, il y avait une idée. Dans le pays d'Ouche, ils appellent ça des bétours. C'est des bétoires, enfin je ne sais pas si c'est français, bétoire. C'est un trou où l'eau de ruissellement s'engouffre et où ça déborde jamais. Et ils ne connaissent pas le fond. Et ils mettent les mots crevés et tout ça là-dedans. Et donc l'idée a été mise qu'ils pouvaient utiliser ça pour évacuer les eaux de drainage. Puis moi je leur dis, mais. Si vous envoyez les eaux de surface comme ça, sans filtre, on ne sait pas jusqu'où, vous ne craignez pas que ça pollue les nappes phréatiques. Et puis, il y a un gars qui m'a répondu, parce que, enfin, il confondait, il ne savait pas ce que... Sa réponse montrait qu'il ne savait pas ce que c'était que des nappes phréatiques, parce qu'il a dit qu'ils allaient baisser le niveau de l'eau par le drainage et tout ça, et que... Enfin, je ne sais pas où m'expliquer. Puis il y a un monsieur qui a dit, un peu plus intelligent, je crois que vous n'avez pas répondu à la question de monsieur, quoi. Il a parlé des nappes phréatiques. Je ne sais plus ce qui s'est passé après, mais... Et alors, j'étais quand même surpris, c'était des ingénieurs de la direction départementale de l'agriculture, les gens qui parlaient là. Ah oui. Et j'en ai parlé. Oh, c'est méchant ce que je dis, hein, tu vas me foutre en prison avec ça. Et après, ça m'était resté, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Comme le mec qui manage le drainage, je ne sais pas ce que c'est que des nappes phréatiques, quoi. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est gros, hein. M'a dit, mais tu sais, les écoles d'ingénieurs. Les meilleurs, ils vont dans le commercial, dans les affaires, et puis ceux qui vont dans l'administration, c'est les plus nuls, quoi. Mais à ce point, tu te rends compte?
Mais alors, le drainage, pourquoi il y avait besoin de drainage?
Ah ben, alors, pourquoi il y avait besoin de drainage? Parce que le pays d'Ouche, c'est très particulier, je ne sais pas s'il existe ailleurs. D'abord, c'est une argile à silex qui est très imperméable.
Mais il y a du calcaire dessous.
Sans doute, oui.
Il y a de la craie.
Bah, sûrement, mais à quelle profondeur, j'en sais rien. Mais moi, maintenant que je suis sensibilisé, je me dis, mais bon sang, ça a été une casse, pas possible ce drainage, quoi. Parce que il y avait plein d'endroits qui étaient des zones humides, mais on ne parlait pas de zones humides comme ça à cette époque-là. Hein. Et en tout cas, pas dans mon milieu. Et ils ne pouvaient rien en faire, c'était de l'herbage, il y avait des vaches qui pâturaient quand ça produisait peu, et ça produisait peu, et c'était en herbage, de mauvais herbage. Et en plus, dans la terre, il y avait quelque chose qui s'appelle le grison. T'as fait de la géologie, toi?
Oui, mais grison, ça ne me dit rien.
Dans le pays d'Ouche, il y a du grison. Du grison, c'est une concrétion, ce sont des graviers qui s'agglomèrent, tu regarderas, ça doit bien avoir des définitions quelque part, moi j'ai regardé mais il y a 50 ans, c'est des concrétions qui s'agglomèrent, qui font des plaques mais qui peuvent être énormes dans le sol, mais avec la charrue, il les accroche, hein. et à différentes profondeurs, et qui sont complètement imperméables. Et donc, le drainage, ça permettait de drainer les zones humides, déjà, par la nature du sol, qui était argilo, argileuse avec l'argile à silex là, qui était complètement imperméable, et puis aussi le grison. Mais je t'assure, il y avait des plaques de grison. Et alors, ben, par exemple, tu as des églises dans le pays d'Ouche.
Alors, c'est
Breteuil. Breteuil, c'est une église qui est en grison. Il y a plein de, il y a plein d'églises où, par exemple, les angles, ou même beaucoup plus, les murs, sont en grison. C'est un béton, c'est un assemblage de gravillons, je ne sais pas sous quelle action, qui se cimente, tu vois. À mon avis, c'est pas un bloc, c'est une.
Et du coup, c'est. Et donc, grâce à ce drainage, ils ont récupéré.
Si tu poses des drains, l'eau, elle va. Il y a des études qui ont été faites, des distances et tout ça, quoi, selon la nature du sol.
Et donc, il y a des drains qui ont été posés.
Ah oui,
en profondeur.
Je sais pas moi, 80, j'en sais rien, quoi. Et alors, c'était pour eux, ils avaient des sacrées machines. Ils avaient des machines avec des chenilles, évidemment, et puis un bras, et puis des sous-soleuses, quoi. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une sous-soleuse. Une sous-soleuse, c'est un espèce d'obus qu'on passe dans la terre. En dessous la semelle de labour pour justement que ça traîne un peu. Mais la sous-soleuse, c'est un canal que tu creuses dans le sol comme ça, donc ça se rebouche, quoi. Ils avaient des énormes rouleaux de drain comme ça sur la machine. Ils avaient cet énorme bras hydraulique là qui descendait dans la terre, une lame qui descendait dans la terre avec un obus comme ça, et puis qui tirait le drain qui déroulait au fur et à mesure, et donc c'était assez puissant pour casser ou arracher ces plaques de grison. Mais je crois que chez Pierre de Comte il y en a une. Ah non, c'est peut-être du grès chez Pierre de Comte, mais parce qu'il y avait des cours de ferme où ils avaient réussi avec les bœufs dans le temps, puis après avec les tracteurs, à arracher ces plaques de grison là qui s'accrochaient tout le temps, quoi. Et donc ils ont fait les drainages en tenant compte des courbes de niveau, et puis après, ben, ils ont redistribué les parcelles. Tu vois, parce que là, ils ont tout chamboulé, les talus, les haies, ils ont tout rasé. Tu vois, c'était le grand massacre.
À l'époque, les haies, tu t'en foutais?
Ben oui, mais moi j'en ai. Mais moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en Bresse, là-bas. J'ai acheté une parcelle de 5 hectares entourée de haies. Le premier hiver, on a abattu les haies tout autour. D'ailleurs, le vieux paysan qui avait la ferme avant, il disait, les vaches, ils ont bien plus besoin de soleil que d'ombre. Mais maintenant, Benoît qui est dans la Manche, il me dit que les haies disparaissent à toute allure. Là, depuis 10 ans, la Manche est en train de se transformer sur le plan agricole de fond en comble, quoi. Il dit. Parce que Benoît, il fait beaucoup de marches, il dit on ne voit plus une vache dans les herbages, quoi. Il y a la génération qui s'en va, les nouveaux qui agrandissent, évidemment avec le matériel, il faut qu'ils arrasent les haies, qu'ils nivellent les talus. Mais moi, quand j'avais même pas 20 ans, dans notre commune, il y avait les gens qui avaient 45 ans, qui étaient plus entreprenants, quoi. Moi, j'étais chez mon père qui était malade, qui ne pouvait pas bosser, donc j'étais resté, je bricolais chez lui, quoi. Et moi, j'avais voulu qu'on adhère à la coopérative. On achetait dessus une coopérative, les Cuma. Ils ont acheté une moisse-batte en Cuma, et moi, j'avais voulu qu'on fasse partie de la Cuma. Et bien, il y a des parcelles où c'était des petites moisse-battes qui faisaient 2 mètres. Mais on ne pouvait pas les emmener dans le champ, on ne pouvait pas passer avec les haies, les talus, les trucs. qu'est-ce que tu fais? Tu arrases. Voilà. Tu vois, ça vient tout seul. Enfin, tu peux couper. Là. Enfin, voilà. Mais moi, quand je suis allé à l'école agricole, c'était entre 55 et 58, on nous disait qu'il fallait mieux doubler les terres en profondeur que de les doubler en surface. J'ai appris ça à l'école.
Alors, ça veut dire quoi, ça?
Eh bien, c'est l'époque où arrivaient les tracteurs.
Oui.
Et donc, avec les tracteurs, là, on avait la puissance et on pouvait labourer plus profond qu'avec les chevaux ou les bœufs. Et quand on labourait, on avait notre point d'honneur à remonter un peu de terre jaune, tu vois, parce que dessus, il y a terre végétale qui est plus foncée, et puis de remonter un petit peu, quoi. Là, on était content de nous, quoi. C'est dingue, hein. Le travail du sol, la vie du sol, moi, ça fait 20 ans que je connais ça. La première fois, j'avais encore une 4L. Oh non, ça fait plus de 20 ans quand même. Enfin, j'avais une voiture qui avait une autoradio. Je me vois, un jour, j'avais la radio dans la voiture et j'entendais une dame qui avait fait une étude sur la vie du sol et qui racontait la vie du sol. Et je suis resté un moment pour écouter la fin de l'émission. Je vois bien où ça s'est passé. Et c'était une révélation. Oui, on savait que le sol est un milieu vivant. Bien sûr, tu l'apprenais, les propriétés physiques, chimiques, biologiques, tout ça. C'était rien par rapport. Et le malheur, c'est qu'il y a encore plein d'agriculteurs, ils n'apprennent pas tellement ça au lycée agricole. Ou alors ils rêvent, quoi. Parce que moi, des fois, je discute avec des agriculteurs qui ont fait un BTS, quoi. Et je leur dis, mais bon sang, vous avez appris quoi au lycée agricole? Bon, en tout cas, ils n'ont pas parlé de ça. Puis les gens, ils font option gestion, bien plus qu'agronomie, quoi.
Et donc, tu disais que tu es arrivé en 71 dans le pays d'Ouche.
J'étais à la maison familiale de 71 en 78. Puis après, je suis allé vendre la bio pendant 6 ans.
Alors ça, c'était quand?
Ben, 78-84.
Et là, tu vendais de la bio?
Bah oui.
Tu vendais, c'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que... alors là, j'ai... Tiens, oui, ça fait partie des choses que je voulais t'annoncer. J'ai découvert par le pur hasard, parce que comme je fais rien, je suis en train de surfer tout le temps sur Internet, un mot t'en emmène un autre, puis tu... Et finalement, j'ai découvert le début de la bio en France. Et le début de la bio, moi je croyais que c'était le maire, et bien c'est pas le maire, c'est Nature et Progrès. C'est Nature et Progrès, qui s'appelait peut-être pas Nature et Progrès au début, et c'est, comment il s'appelle, le gars qui a créé... un truc qui s'appelle Nature et Découverte ou je sais pas quoi là, qui vit encore, hein, un agro, attends, et qui a fait des bouquins aussi, enfin, mais ça va revenir, je vais te dire. Et le maire faisait partie du groupe.
Le maire, c'est
le maire, c'est le maire, c'est le maire.
Gaston?
Non, c'était Raoul. Raoul le maire. Raoul le maire, c'est un gars qui avait 80 ans, les années 80, quoi. Parce que moi, que je n'ai pas connu, il était mort. Et Raoul le maire, c'était un généticien qui créait des variétés de blé, on appelait ça des blés de force, parce que c'est toujours de bonne valeur boulangère, des blés de force. Et avant la guerre, il avait son centre de production de semences, de blé de force, à Roye, dans la Somme. L'autoroute y passe. Et avant la guerre, il a découvert que là-bas, dans les régions de grande culture, il commençait à utiliser des engrais chimiques. Et il a découvert que les fertilisations chimiques ne permettaient pas à ces variétés de rendre leur potentiel par rapport aux fertilisations naturelles. Et il a connu un agronome qui s'appelait Boucher, qui avait fait des études, qui connaissait en fait des choses. C'était bien ce qu'il savait au moment Boucher. Et Boucher avait le savoir, et Fouché et le maire, il avait le pognon d'abord. Voilà. Et donc ils ont créé la société Le Maire Boucher. Et si tu vas voir Nature et Progrès, Origine, je ne sais pas quoi, je suppose que j'ai tapé pour entrer dedans, ils expliquent que, en fait, ils se sont séparés de gré ou de force, j'en sais rien, parce que le maire était trop porté sur le commercial, quoi, sur les affaires. Quoi. Lui, c'est un mec qui faisait du pognon. Moi, ce qu'on m'a raconté, quand je suis rentré chez le maire, ceux qui connaissaient d'avant, quoi, sa famille avait fait du fric c'était des marchands de pain. Antérieurement, quoi, le maire. Mais lui, Raoul, il était généticien, il fabriquait des blés. À ce moment-là, moi je l'ai vu faire, hein, j'ai appris à l'école. On hybridait, on intervenait, on faisait des fécondations croisées. Le blé, quand la fleur apparaît, la fécondation a eu lieu, c'est une fécondation interne. Et donc, avant que quand on dit que le blé fleurit, il défleurit et c'est les organes mâles de la fleur qui
sont les étamines.
Les étamines tombent à l'extérieur, mais avant de tomber, si tu sais comment c'est fait, une fleur de blé, c'est un ovaire globuleux. Et puis des anthères, et puis les étamines, c'est l'anthère, et puis...
Non, les étamines, c'est le...
Les étamines. Ah non, il y a l'ovaire, voilà, il y a l'ovaire poilu, j'essaie de me rappeler, Malson, l'ovaire poilu...
Le pistil.
Et puis le pistil et le style.
Oui.
Voilà, et...
Et l'anthère, c'est ce qui porte le...
Oui, l'anthère, c'est le sommet. Hein. C'est ce qui porte le pollen.
Oui.
Donc, une étamine,
oui,
c'est une anthère, un filet et une anthère.
Oui.
Hein, c'est le filet et l'anthère. Voilà, qu'on représente avec une espèce de cylindre, comme ça. Voilà. Et donc, quand à la floraison, le